حالا. Saison 2, épisode 2. Précédent, la situation est fouillou et même oulala. Pitou, l'intrépide gladiateur cosmique, est mort. On a retrouvé son cadavre dans une chambre d'hôtel, dans un vestiaire et dans un photomaton. Ce qui laisserait à penser que Pitou serait mort 3 fois en 48 heures et à plusieurs milliers de kilomètres de distance. Un mystère qui s'est épaissi au fil des jours. En effet, dès le lendemain, Madame Geneviève Flontin, institutrice à la retraite habitant Vesoul, découvrait un autre pitou mort dans son frigo, entre le bac à glace et les restes du bœuf bourguignon de la veille. Dimanche, sur le parking du Castorama de Brive-la-Gaillarde, ce sont 3 pitous, tout aussi décédés que les précédents, qu'on retrouvait à bord d'une Twingo. Lundi, on apprenait que 11 pitous défunts avaient été retirés du grenier d'une petite maison de style typiquement tyrolien située dans la banlieue d'Innsbruck. Mardi, sur le quai 117 du port de Bruges, on déchargeait un conteneur en provenance de Taïwan rempli à ras-bord de pitous trépassés. Et hier, à Weyland, dans le Massachusetts, à 14h25 local, une pluie de pitous crevés s'est abattue sur cette riante bourgade, causant des dégâts considérables ainsi que le décès de M. James Few, 74 ans, qui avait commis l'imprudence de sortir de chez lui sans parapluie. Aujourd'hui, alors que les apparitions de pitous clamsés se multiplient un peu partout sur la planète et que les autorités commencent à s'affoler, on n'en sait pas plus qu'il y a une semaine sur cet étrange phénomène, lorsque soudain... Pendant ce temps, à bord d'une station spatiale russe abandonnée, le narrateur se rend compte qu'on est déjà en février et qu'il ne s'est pris que 19 cuits depuis le début de l'année. Il décide d'y remédier dans les meilleurs délais et se prépare pour les prochains jours un planning strict de consommation effrénée d'alcool, histoire de rattraper son retard. Ses rares moments de lucidité lui ont tout de même laissé le temps de lire une poignée de premiers romans, en l'occurrence Ad Noctum, signé du duo Ludovic Lamarck et Pierre Portrait, ainsi que, et pour quelques gigahertz de plus, d'Ophélie Bruno. You're a freak of nature. You are a Siamese. You are in a pickle jar for all the world to see. Watching the sleeping man. Watching the sleeping man. Watching the sleeping man. Watching the sleeping man. Dans les genres qui nous intéressent, il paraît chaque année un nombre considérable de premiers romans, nombre que je situerais à vue de nez entre un bon paquet et une chier. Avec régulièrement dans l'eau de très bonnes surprises. L'an dernier, c'était par exemple Vastburg de Cédric Ferrand, ou Enfin la nuit de Camille Le Boulanger. La dernière heureuse découverte en date est à mettre au crédit de Gilles Dumay, qui publie dans la collection Lune d'encre Ad Noctum, le premier roman de Ludovic Lamarck et Pierre Portrait. En fait de roman, Ad Noctum, sous-titré Les Chroniques de Génicor, est davantage un recueil de nouvelles qui se situent toutes dans le même univers, un futur moyennement proche et pas franchement radieux. Les 9 récits au sommaire survolent ce monde chaotique, où Chine et États-Unis se livrent une guerre interminable, où l'essentiel de la population humaine s'est réfugié dans quelques cités à l'abri des retombées des combats, et où les manipulations génétiques sont menées courantes. Même lorsqu'elle n'est pas nommée, l'ombre de Génicor, multinationale spécialisée dans l'ingénierie génétique, plane en permanence sur les destins des personnages que les auteurs mettent en scène. C'est elle qui fournit à l'armée les satyres qui vont semer la terreur derrière les lignes ennemies, elle qui ressuscite les hommes de Cro-Magnon qui seront pourchassés au cours de safari d'un genre nouveau, elle qui propose aux femmes esselées un compagnon qui les emportera au septième ciel, elle enfin qui offrira l'immortalité à ceux qui en ont les moyens. Évidemment, derrière le miroir aux alouettes, on découvre un monde invivable où les populations au bas de l'échelle sociale font ce qu'elles peuvent pour survivre, et où ceux qui sont parvenus à gravir quelques échelons ne peuvent espérer s'y maintenir qu'au prix de nombreuses compromissions. Le futur que décrivent la marque et Portrait, et les thèmes qu'ils développent au fil de leur récit, ne sont pas particulièrement originaux. À lire Ad Noctum, on a l'impression de se trouver en terrain connu, et il n'est pas interdit de penser à certaines œuvres de Silverberg, de Brunner et de quelques autres publiées dans les années 60 et 70. Ceci dit, à moins de ne jurer que par les auteurs de SF à la pointe de l'extrapolation, ce classicisme n'a rien d'un défaut. D'autant plus qu'ils ont su donner une cohérence certaine à leur univers, qui gagne en épaisseur à chaque nouveau récit. Dans l'ensemble, les nouvelles qui composent Ad Noctum sont bonnes. Certaines sont même excellentes. Toutes donnent à voir la violence et l'horreur du monde créé par Génicor. Mais le tour de force des auteurs est qu'ils parviennent à ne jamais se répéter. De l'humour noir et grinçant de FTA, le récit qui ouvre Ad Noctum, jusqu'à la pure monstruosité qu'on découvre dans les derniers paragraphes du Dernier Continent, la marque et Portrait changent régulièrement de registre sans jamais perdre le cap. En général, c'est lorsqu'ils nous font entrer dans l'intimité de leurs personnages qu'ils signent leurs meilleurs textes. C'est le cas dans OK, un texte construit à rebours qui s'intéresse au retour à la vie civile de quelques vétérans de la guerre sino-américaine. Ou dans Le cri de la chair, un récit épistolaire qui met en scène un amour à distance d'une nature tout à fait particulière. Ou encore dans Mes aïeuls, le dernier texte au sommaire, où un couple se déchire autour de l'enfant qu'ils n'ont toujours pas eu, après un siècle de mariage. C'est dans ces nouvelles que l'on ressent le mieux la violence et la noirceur de cet univers. Ad Noctum est donc un très bon premier bouquin, qui trouve assez naturellement sa place dans la collection Lune d'encre, quelque part entre Clear de Laurent Klotzer et Outrage et Rébellion de Catherine Dufour. They took the drugs and left to strand it down in Mexico. Have found wandering the desert, you had blood on your soul. But why did you know? I've been told blood makes the grass grow. But baby, what do you know? You got to let it roll, but what would I know? Bon, soyons honnêtes, en matière de premier roman, des réussites comme Ad Noctum sont loin de constituer la norme. En général, si on fait abstraction des inévitables bouses qui viennent de temps à autre polluer les tables des libraires, on se trouve le plus souvent en présence de textes plus ou moins bancals, plus ou moins mal foutus, autant de tentatives que, malgré toute la bonne volonté de l'auteur et la bienveillance du lecteur, il faut bien se résigner à classer dans la catégorie des ratages. C'est le cas de « Et pour quelques gigahertz de plus », premier roman d'Ophélie Bruneau, que publient les éditions Ad Astra. Il s'agit d'un roman d'aventure spatiale des plus classiques, dans lequel un vaisseau spatial, le Viking, est envoyé en mission d'exploration et se retrouve impliqué dans une guerre civile opposant une ancienne colonie à sa planète d'origine. Les Terriens vont tout faire pour ne pas devoir prendre parti, jusqu'à ce qu'un des membres d'équipage soit kidnappé, ce qui, bien évidemment, va les obliger à intervenir. La quatrième de couverture du livre fait référence à Babylon 5, mais c'est surtout à Star Trek que l'on pense à la lecture de ce roman. Une version de Star Trek où les uniformes sont un peu moins bien repassés, les officiers un peu plus enclins à courir la gueuse entre deux missions, et les consignes de non-intervention nettement moins strictes que chez Starfleet. L'idée est plutôt amusante, pourtant le résultat n'est pas vraiment une réussite. Et pour quelques gigahertz de plus, manque de rythme et manque surtout d'inventivité. Ophélie Bruneau s'amuse avec les stéréotypes du genre et les situations classiques de ce type de récit, mais elle ne parvient jamais à se les approprier et à les renouveler. On assiste donc à une succession de passages obligés et convenus qui s'enchaînent mécaniquement. les quelques éléments potentiellement intéressants du roman sont peu ou mal exploités. Par exemple, dans sa description des extraterrestres qu'elle oppose aux terriens, Ophélie Bruneau évoque quelques-unes de leurs particularités, qu'elles concernent leur physiologie, leur organisation sociale ou leur mode de reproduction. Mais tout ça reste très superficiel, rien n'est jamais développé, et les extraterrestres en question n'apparaissent jamais que comme des personnages génériques et sans aucune épaisseur. On pourrait faire grosso modo le même reproche aux membres d'équipage du Viking. Le principal problème de ce roman, c'est qu'il ne trouve jamais sa voie. Le ton est trop léger pour qu'on puisse prendre les aventures du Viking et de ses occupants au sérieux, mais les situations et les personnages sont trop convenus pour que le roman fonctionne en tant que comédie ou que parodie du genre. Si bien qu'il se retrouve constamment le cul entre deux chaises, trop timoré pour dynamiter les conventions du genre, et trop frivole pour jouer à fond la carte du space opéra pur et dur. Ceci dit, et pour quelques gigahertz de plus, n'a rien de honteux non plus. Ça se lit vite, sans qu'à aucun moment on ait envie de jeter le dit bouquin par la fenêtre, dans la cheminée ou à la tête du premier con qui passe. Ça se lit comme la novélisation d'un épisode passable d'une franchise quelconque, tendance space opéra. On a surtout l'impression que Ophélie Bruneau a consacré toutes ses forces à relever le défi que constitue l'écriture d'un premier roman, tellement qu'elle en a oublié de s'intéresser à l'histoire qu'elle allait raconter. Maintenant qu'elle sait qu'elle est capable de tenir la distance, on peut espérer un deuxième roman plus original et plus ambitieux.